Bonjour à tous. Ce matin, le chant était un petit peu, pile poil dans le thème de ce qu'on va voir ce matin. Je reprends les paroles, je vais de l'avant. Je décide de te suivre, de te servir. Jusqu'au bout, dans tes voies, je cours. Mon désir, c'est de te voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie, à tenir toujours. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Si je trébuche en parcours, ta main me secourt. Tout ce qu'il nous faut abandonner pour pouvoir dire oui à Dieu, j'abandonne mes tristesses, mes peines, mes souffrances, ma honte, je laisse tout tomber pour servir le Seigneur. Et puis encore, jusqu'au bout. Va, crois que la force du Seigneur est avec toi. La vie avec Dieu n'est pas toujours un long fleuve tranquille. On a l'avantage de pouvoir lire des témoignages dans l'Écriture de la vie d'hommes, de femmes de Dieu, qui ont commencé leur vie avec Dieu et qui ont été jusqu'au bout. Alors c'est un privilège parce qu'on peut en tirer des leçons. Je voulais vous parler ce matin un petit peu de toute cette vie par étapes. La vie chrétienne est comme l'apprentissage d'un métier, l'apprentissage d'être parent, l'apprentissage d'une langue, enfin voilà, de tout ce qu'on peut apprendre dans la vie, il y a des étapes, il y a des moments du parcours où on dit tiens, il y a des. Donc on retrouve parmi tous ces hommes de Dieu, dans l'écriture, des clés de compréhension qui peuvent nous apprendre, nous instruire pour nos propres étapes. Au travers de toutes ces étapes, il y a des transformations dans nos vies. Je vais utiliser un autre mot, alors peut-être qui est plus compliqué, je ne sais pas aujourd'hui s'il est connu encore, métamorphose. Si on prend les insectes, que ce soit les libellules, et même les moustiques, peut-être on ne les aime pas trop, mais en tous les cas, ils vivent quelque chose d'incroyable. C'est une petite larve, un petit cocon, un petit truc blanc qui tout d'un coup se développe et en sort quelque chose d'extraordinaire. Il y a des papillons qui sont extraordinaires, mais si on les regarde au début de leur vie, c'est un cocon, c'est pas forcément très joli. Par contre, à un moment donné, on voit voler. Pareil pour les libellules, on les appelle les demoiselles. Tous ces insectes, voilà, c'est aussi une leçon pour nous, c'est il y a une transformation. Jean-Marc parle souvent, dans le travail qu'il a eu, dans l'accompagnement, c'est comment est-ce qu'on conduit, comment est-ce qu'on amène le changement dans nos vies. Et on en parle beaucoup en ce moment, on voit que le changement, même pour les Français, c'est compliqué d'accompagner dans le changement. Est-ce qu'on laisse le Dieu vivant, le Christ Jésus, nous accompagner dans les étapes, dans les changements, dans les métamorphoses dont on a besoin? Une qualité pour vivre ces transformations, c'est la persévérance. Je crois que Francine en parlait il n'y a pas longtemps. On a envoyé un petit robot sur Mars qui s'appelle Persévérance. Ça a pris quelques mois. Pendant 7 heures, il y a une descente qui est... On perd le contact. Il faut savoir que c'est des programmes qui ont été commencés 10 ans, 20 ans avant. Et des gens ont conçu des outils scientifiques des dizaines d'années avant, et tous ces outils ont leur aboutissement. Et on se dit, pourvu que tout se passe bien et que ce petit robot, il atterrisse au bon moment, au bon endroit, et qu'il puisse travailler, tout s'est bien passé. On voit des hommes de Dieu atterrir dans leur foi chrétienne, entre le moment où ils entrent en relation avec Dieu et jusqu'à la fin où Dieu les reprend. Voilà, certains traversent des moments difficiles, mais on voit pour la plupart d'entre eux, à la fin de leur vie, eh bien, ils ont été jusqu'au bout. Il y en a qui en parlent un petit peu plus que d'autres. Je voudrais voir avec vous deux hommes de Dieu dans la Genèse qui ont commencé une vie avec Dieu, qui ont été jusqu'au bout, qui ont traversé des moments difficiles. Mais il y a des moments clés dans leur vie. Il y a eu des moments de révélation où quelque chose de nouveau est arrivé. Comment est-ce que ce qu'ils ont vécu peut nous entraîner, nous amener à nous interroger, puis avoir soif de repérer dans nos vies ces moments clés, et puis avoir la capacité de la persévérance pour aller jusqu'au bout. Ma hantise étant dans mes premiers mois de conversion, je me disais, oui, mais Seigneur, comment est-ce que j'ai la certitude d'aller jusqu'au bout ? On ne l'a pas tout le temps. Une femme de Dieu qui s'appelait Corrie ten Boom posait la même question. Seigneur, elle a vécu les camps de la mort, Ravensbrück. Comment garder la foi dans des conditions comme ça ? Et puis le Seigneur lui a simplement dit quelque chose. Quand tu prends le train, quand est-ce que tu achètes ton billet ? Elle dit, ben juste avant de monter dans le train. Les convictions, la force, l'assurance, elles viennent au fur et à mesure dans notre vie. Quand il faut acheter le billet de train, le billet d'avion, le billet de bus, eh bien, Dieu va nous accompagner à chaque moment de notre vie. Voilà, puis le témoignage ce matin de Marie, c'était aussi un témoignage où Dieu nous accompagne pas à pas, y compris dans les moments charnières, les moments clés de notre vie. Dans l'histoire d'Abraham, on va en lire quelques chapitres et puis on verra quelques histoires de son petit-fils Jacob. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. » Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est une rencontre et puis une expérience extraordinaire. Dieu qui dit quelque chose d'étonnant, qui dit voilà, tu as vécu jusque-là dans une famille en sécurité, j'aimerais te lancer dans une autre aventure. Et une des clés de compréhension de la vie d'Abraham, c'est « va-t'en ». Jean-Marc disait ce matin, mais comment est-ce qu'on peut entendre Dieu parler ? Je dis parfois, la plupart du temps, quand Dieu parle, il ne fait pas des grands discours. Il nous donne des directions à notre charge de les accepter, d'y répondre, d'y obéir. Il y a 47 ans maintenant, j'étais avec des musiciens depuis un an et demi, et moi ça me plaisait beaucoup. Je faisais du mime, je montais le matériel, et puis une fois, je revêtais un costume pour faire du mime, et ce même ordre est arrivé. Va-t'en, qu'est-ce que tu fais là ? Juste ces mots-là, va-t'en, qu'est-ce que tu fais là ? Seigneur, pour vivre ma vie avec toi, tu ne veux pas que je la vive là. 22 ans, je suis rentré chez maman. Et j'ai recommencé une vie, ça, voilà, c'est tout des temps difficiles. Mais voilà. Abraham a entendu plusieurs fois ce mot-là. Va-t'en. Va-t'en de là où tu es en ce moment. À un moment donné, il y a eu de la famine, il est allé en Égypte. Il a un petit peu joué. Il y avait un pharaon et Abraham avait une épouse qui était très jolie de figure. Et Pharaon, qui avait plusieurs femmes, plusieurs concubines, s'est dit « Oh, c'est intéressant. » Et Abraham, il jouait un peu avec les choses, il s'est dit « Mais non, c'est pas mon épouse, c'est ma sœur. » « Ça a failli mal se terminer pour le pharaon. Et puis Abraham est reparti avec Sarah, son épouse, avec des troupeaux. Mais à un moment donné, Dieu lui a dit, va-t'en, sors de l'Égypte, sors de ces pratiques. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Poursuivre le Christ Jésus, ce n'est pas toujours facile de quitter ce qui fait parfois nos racines, patrie, fratrie, parfois vie professionnelle, parfois d'autres choses, quitter, abandonner, pour vivre le changement, pour vivre des transformations, pour vivre des métamorphoses. Parfois, il nous faut apprendre à obéir et puis à quitter des choses parfois à laquelle on tient. Il y en a, quand c'est le péché, bon, c'est plus facile, mais il y en a... Moi, j'aimais beaucoup vivre avec des musiciens. C'était un rêve d'adolescent. Je leur ai dit, mais ton chemin, il n'est pas là. 20 ans. Fais ta valise. Et puis reprends peut-être une vie normale. J'ai dû réapprendre tellement de choses. Réapprendre à travailler, à vivre. Genèse chapitre 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il le transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident, Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Une des constantes et un des points de repère, si vous avez envie de relire cette vie d'Abraham, c'est qu'à chaque fois qu'il a une nouvelle révélation de Dieu, dans un nouvel endroit, il bâtit un autel. C'est quoi un autel dans notre vie avec Christ? Peut-être des expériences liées à la croix. Quand on est au pied de la croix, qu'est-ce que Dieu me dit? Méditer sur la croix de Jésus-Christ peut être un moment de révélation extraordinaire dans nos vies. Et un moment clé. C'est un moment où on est en sécurité auprès de Dieu. C'est à la croix que Christ a porté nos péchés, nos souffrances, nos maladies. C'est un lieu de refuge. Et souvent, quand j'ai traversé des difficultés dans ma vie, je me suis dit, mais voilà, Seigneur, tu as porté ce que je vis sur la croix. Notre autel aujourd'hui, c'est de trouver refuge, de trouver un temps d'arrêt au pied de la croix, pouvoir méditer sur l'œuvre que Christ a faite à la croix. Seigneur Jésus, là, ce matin, maintenant, dans mon rapport avec toi, en te contemplant sur la croix, quelle est ta parole? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que j'ai besoin de déposer à tes pieds? Qu'est-ce que j'aimerais que tu fasses aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent? Quelle est ta parole, ton onction, ta manière d'être avec moi au pied de la croix? Chapitre 14. Parfois, ça peut être intéressant pour nous de lire des histoires d'hommes de Dieu, les lire en lecture suivie, en entier. Prendre le temps de pouvoir, voilà, du chapitre 12 au chapitre 22, 24 de la Genèse, lire toute l'histoire d'Abraham, prendre un carnet, une feuille de papier, un crayon, puis de noter tous les moments charnières. Il y en a tout plein. Et je suis sûr qu'en méditant Dieu peut nous révéler, peut nous apprendre des choses sur notre propre parcours. Abraham a dû aller délivrer son neveu. Il y a plein de rois qui s'étaient coalisés à l'époque. Chaque ville avait son petit roi. Tous ces rois se sont mis ensemble et puis ont attaqué le neveu d'Abraham qui s'appelait Lot. Et puis Abraham a dû prendre des serviteurs qui étaient en même temps un petit peu des guerriers, des soldats, et puis il a dû aller se battre. Et puis, quand il est revenu vainqueur, il rencontre quelqu'un d'extraordinaire. Jean-Marc en parle souvent, on le partage au moment de la Sainte-Cène. C'est dans Genèse, au chapitre 14, verset 17. « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Verset 22, Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève les mains vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. » Chaque étape de sa vie, Abraham a une nouvelle révélation de qui est Dieu. Et au travers de cette victoire, il se rend compte que Dieu est le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Dans nos combats, au pied de la croix de Christ, au pied de l'autel, on peut recevoir des nouvelles révélations aussi de qui est Dieu. On a parlé ces dernières semaines de Dieu qui se révèle de toutes sortes de manières, par toutes sortes de noms, toutes sortes d'actions, toutes sortes de manières d'être. Laissons Dieu nous révéler ces nouvelles manières d'être. Ce que Dieu est, il veut que je le devienne. Et il y a des transmissions qui se font. Abraham va collecter dans toutes ses étapes auprès de Dieu toute cette révélation, cet arc-en-ciel de la révélation de la personne et de l'être de Dieu. Et à chaque fois, il va rajouter quelque chose. Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Dieu est le Maître du ciel et de la terre. Dieu est celui qui pourvoit. Dieu est le Dieu élevé. Dieu est... Comment est-ce que l'on peut se laisser accompagner par une révélation qui grandit du Christ Jésus ? Dans la contemplation de Christ à la croix, qu'est-ce que cela peut nous transmettre sur nous et sur lui ? Et comme envie de vivre, comme envie de révélation. Le mot « alliance » revient plusieurs fois dans la vie d'Abraham. Et il va faire tout plein d'alliances avec Dieu. Tout plein d'alliances pour le pays qu'il a à conquérir et pour une postérité. Une des clés de lecture dans la vie d'Abraham, c'est cette difficulté qu'il a à croire en Dieu pour avoir une promesse de postérité. Là aussi, il va essayer plusieurs stratagèmes. Tous ne vont pas très bien marcher. Genèse chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham, dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'extrême. » Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Quand tu rencontres des gens puissants, ne dis pas que ton épouse est ta sœur. Il l'a fait deux fois. Deux fois, ça a failli mal tourner. Même Abraham, parfois, était un petit peu... comme ça, bon, envelopper les choses et puis essayer de pas trop se mouiller. Marche devant ma face et sois intègre, c'est-à-dire sois droit. Ne cherche pas à travestir la vérité, enjoliver la vérité. Droit dans tes bottes. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. Ton nom sera Abraham, de père élevé, père d'une multitude. Je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations. Des rois sortiront de toi. Fais une première tentative avec la servante de sa femme. Sarah était stérile. Il y a eu des temps d'attente dans la vie d'Abraham, des temps qui étaient longs. Entre diverses révélations de Dieu, diverses étapes, parfois le temps est long. Va-t'en de ta patrie, il avait 75 ans. Naissance du fils, son fils bien-aimé, il aura 99 ans, 100 ans. Sa femme, 90 ans. Il y a du temps long. Parfois, les promesses de Dieu, quand on voit les promesses qu'il a reçues, on se dit « Waouh, super !» Une multitude de peuples, des rois. Et puis, les semaines, les mois, les années passent. Abraham fait deux tentatives. Il se dit « Tiens, j'ai un serviteur là de Damas, je pourrais lui donner tout ce que j'ai, puis avec la servante de sa femme, avec Agar, il aura Ismaël. Et puis Dieu lui dit, mais non, c'est de toi, de Sarah, de ton épouse, celle que tu as épousée. Et puis Dieu va répondre à l'attente d'Abraham, et Sarah va enfanter. Les deux vont se mettre à rigoler quand Dieu va le révéler, mais voilà, je vais te donner un fils. Et puis tout le monde se met à rire. Et puis un jour naîtra Isaac. Il a ri. Est-ce que Dieu fait une bonne blague à Abraham? Il l'a fait attendre. Parfois, il nous faut attendre dans nos vies pour que des clés de nos vies, pour que des domaines, pour que des prisons, c'était dans les prières ce matin, pour que des prisons s'ouvrent. Certaines, dans ma vie, j'ai mis des années, mais j'ai toujours su que si je persévère, si je reste fidèle un jour, la pensée de Dieu va se dérouler. Abraham est resté fidèle jusqu'au bout. Et il a cette révélation d'El Shaddai, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, rien n'est impossible à Dieu ». Et puis il y aura cette naissance d'Isaac. Il est tellement content. Chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Dieu mit Abraham à l'épreuve. On peut mettre notre nom. Il n'y a pas de vie chrétienne, mais il n'y a pas de vie tout court sans épreuves. Les épreuves de la vie sont aussi diversifiées que nous sommes de présence ce matin. Il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Un nouveau retentit, c'est juste ce mot, va-t'en. Va-t'en au pays de Morija avec ce fils et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Souvent, on prend holocauste pour un mot technique, mais pour Abraham, c'est un mot terrible. Ça veut dire sacrifier son fils et l'offrir sur un autel avec du feu jusqu'à ce qu'il n'en reste que des cendres. Seigneur, tu m'as dit que j'aurais des enfants, que les nations seraient bénies et que des rois sortiraient de moi. Mais si je t'offre, Isaac, il reste quoi ? Dans le Nouveau Testament, il nous est dit qu'au travers de cette épreuve, Abraham croyait que Dieu était capable de ressusciter les morts. Abraham s'est dit, si Dieu me demande ça, c'est qu'il est capable de faire une résurrection, de rendre la vie à tout ce que j'ai espéré, tout ce sur quoi j'ai misé, le Dieu sur lequel j'ai misé, me demande d'offrir mon fils. Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père, il répondit, me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois. Il lia son fils Isaac. Les Juifs appellent ça l'akida, la ligature d'Isaac. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils, pour voir rendre à Dieu ce qu'il nous a donné et qui nous est le plus cher. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier, l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est le grand moment de métamorphose, de transformation d'Abraham. Dieu lui demande quelque chose d'insensé. Enfin, il a un fils. Puis Dieu lui dit, mais offre-le-moi. Va-t'en sur la montagne que je te montrerai et offre-moi ton fils. Abraham écoute, entend, digère, et il répond simplement « me voici ». Là aussi quand même l'habitude et le réflexe d'obéir et de répondre favorablement à Dieu. Il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'entendre « va-t'en » pour diverses raisons. On a toujours le choix. Face à une injonction, une parole, une demande de Dieu. On a toujours le choix. La transformation ne va pas de soi. Le changement, la métamorphose ne va pas de soi. Mais il y a un moment donné, il faut être prêt à l'accepter. Abraham s'est dit, quelle que soit la remise en cause de ce que tu me demandes, me voici, j'y vais. Et il nous a dit qu'au travers de cet acte, il devient père de la foi. C'est un modèle pour tous les croyants. Abraham transcende l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il a fait un acte qui est quelque chose d'éternel, qui est l'acte que Dieu, le Père, fera au travers de son Fils Jésus. Dieu va nous offrir son propre Fils. Ce qu'il demande à Abraham, il est prêt, il savait qu'il allait le faire. Et Dieu va le faire. Et le Christ va aller jusqu'à la croix, c'est lui qui va pourvoir aux besoins de tous les hommes. Au travers de Christ, Dieu a pourvu. Yahvé Jiré. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Sur la croix de Jésus-Christ, il sera pourvu. Dieu a pourvu à tous nos besoins, quels qu'ils soient, à la croix de Jésus-Christ. Abraham est décédé à 175 ans. Après le décès de Sarah, souvent on oublie un petit peu, il a repris encore une autre épouse. Plein de peuples sont sortis d'Abraham, au travers d'Ismaël, au travers d'Isaac, puis au travers de d'autres enfants. Mais c'est un homme qui a été jusqu'au bout avec Dieu. Il a vécu plein d'aventures, son alliance avec Dieu a eu plusieurs étapes, avec des autels, avec des animaux partagés, des cérémonies un petit peu étranges, qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui parce que ça n'est plus usité. L'offrande de son circoncision, il a été circoncis à 99 ans, c'est pas très agréable. Et là aussi, Abraham a obéi, et puis des peuples, bien depuis des millénaires, observent cette prescription. Abraham a toujours obéi à Dieu, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il y a eu plein de temps forts, plein d'étapes, plein de transformations, plein de moments où... toute cette révélation de Dieu qu'il a eue ont enrichi sa vie. Quelle richesse de pouvoir dire, mais voilà, éternel Yahvé, Seigneur mon Dieu, El Elohim, waouh, tu as tellement de choses pour moi. Tellement de choses pour moi. Pas seulement empiler les révélations, mais quand même s'en nourrir, vivre avec, et pouvoir être dans le remerciement, dans la reconnaissance de ce que Dieu veut nous donner. J'aimerais voir un autre parcours avec vous, le parcours de Jacob. Pareil, vous pourrez lire ça dans le livre de la Genèse, chapitre 25. Autant de chapitres, parfois aussi, pouvoir lire, voilà, prenez du temps, peut-être un après-midi, un soir, un matin. Quand vous avez un temps où vous vous sentez bien entre les mains de Dieu, pouvoir lire une histoire complète d'un homme de Dieu, dire, voilà, Seigneur, qu'est-ce que la vie de cet homme peut m'apporter ? C'est souvent dans des temps de repos, de lecture, comme ça, que tout d'un coup, Dieu peut ouvrir l'écriture. Beaucoup de révélations dans ma vie sont venues au travers des prédications, mais beaucoup simplement au travers de toutes ces lectures dans l'écriture. Et puis au moment où on s'y attend le moins, tout d'un coup, une parole s'ouvre, une promesse de Dieu est donnée, s'ouvre. Et on sait que c'est une promesse, on sait que c'est quelque chose qui se réalisera. Ça nous donne de la force, ça nous donne de la persévérance pour pouvoir aller plus loin, pouvoir écouter, choisir, apprendre à connaître Dieu, quitter ce qu'il nous demande, aller marcher, marche devant ma face, avoir des révélations de la personne, de l'être de Dieu, changer de nom. Abraham a changé de nom. Un jour, nous aurons un nom nouveau là-haut. Si nous persévérons jusqu'au bout, nous recevrons un caillou avec un nom nouveau. Waouh ! J'ai hâte de recevoir ça. Bien que j'ai déjà un prénom, je trouve qu'il est déjà sympa, puisque Michel, ça veut dire qui est comme Dieu, avec un point d'interrogation. Mais un jour, j'aurai quand même un nouveau nom. L'homme qu'on va voir maintenant, Jacob, à un moment donné aussi, au moment clé de sa vie, il va changer de nom. Les promesses de Dieu pour Abraham ont fait que Abraham, père élevé, va devenir père d'une multitude. Et puis en même temps, Dieu va l'éprouver sur ce parcours. La foi d'Abraham va devenir un modèle pour tous les croyants. Et par sa fidélité, il va recevoir un pays et une postérité. Il va aller jusqu'au bout. Il en est pareil dans nos vies. Est-ce qu'au pied de la croix, on peut regarder le Christ dans les yeux et dire, Seigneur aussi, viens, aide-moi, malgré les épreuves, aide-moi à aller jusqu'au bout. Je veux aller jusqu'au bout avec toi, jusque dans la vie éternelle. Ça, c'est des choses qui sont bonnes, des alliances qui sont bonnes à répéter. Isaac aura deux fils, deux jumeaux. Le premier, c'est Ésaü. Il dit qu'il est couvert de poils, qu'il est rond. Et puis, il y a son frère qui lui tient le talon, qui s'appellera Jacob, celui qui tient le talon. Et puis, voilà, ces deux hommes vont vivre. Les deux sont très, très différents. Isaac, il aime Ésaü, le roux, le velu. C'est un chasseur, il aime bien faire des bons repas. Il aime bien quand son fils va chasser et puis lui prépare des mets. Et puis une fois, Ésaü va à la chasse et il revient, il est claqué. Je ne sais pas quelle heure il est. En tous les cas, il est tard et puis il se dit, voilà, faire encore à manger. Et puis il voit que son frère Jacob, il a préparé un magret de canard. Bon, ça peut être la viande que vous préférez. Il lui dit, c'est sympa ce que tu as fait là. Moi, j'ai été à la chasse toute la journée. J'aimerais bien... Voilà, est-ce que tu partages ton repas ? Jacob, il a quelque chose en plus. Il lui dit, d'accord, je partage mon repas, mais tu me vends ton droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'était la bénédiction qui était apportée au premier-né. C'est celui qui recevait le plus d'héritage. Jacob lui dit, ouais, t'as faim, ok, moi je partage avec toi. Mais en retour, il est déjà un peu calculateur, un petit peu donnant-donnant. Je partage mon repas, mais tu me donneras ton droit d'aînesse. Genèse 25, ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Rebecca aimait Jacob. Et déjà là, entre Isaac et sa femme Rebecca, il y a des préférences. Isaac aime Ésaü, Rebecca aime Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour ça qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Et là, de la suite dans les idées. Jacob, c'est ce qu'il veut, il veut être le premier. Quitte à prendre de la place, à bousculer un petit peu autour de lui, quitte à bousculer son frère. Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Bonne journée de chasse, bien crevé. Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain, du potage de lentilles. Ah, j'ai fait des saucisses lentilles cette semaine. Avec plein de carottes, c'est sympa, c'est facile à manger, c'est bon. Hein. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. En Jésus-Christ, Dieu nous donne des nouveaux droits. Est-ce qu'on les accepte ou est-ce qu'on les négocie? Est-ce qu'on les vend? Quelle est notre attente, notre fidélité là, par rapport à Dieu, par rapport au don de Christ? Dieu a donné à la croix son Fils bien-aimé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Aimez-le, croyez en lui. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Est-ce que l'on aime les choses de Dieu, les choses du royaume de Dieu, ce qui est en haut, ce qui est élevé, ou est-ce que l'on aime manger, boire, se divertir? En ce moment, c'est difficile, hein, il y a tellement de divertissements, tout le monde râle. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Est-ce que l'on est prêt à recevoir et à garder ce que Dieu veut nous donner? Plusieurs fois dans ma vie, au-delà de 20 ans, j'ai aussi entendu cette parole inspirée. Garde ce que tu as reçu. Sous aucun prétexte, ne lâche, ne donne, ne te laisse enlever la bénédiction de Dieu. En Jésus-Christ, Dieu veut nous bénir. Christ a payé le prix pour ça. Est-ce que le diable va venir et puis dire, ah, tiens, vends-moi ton droit d'aînesse. J'ai vécu une expérience un petit peu particulière par rapport à ça. Quand j'étais au collège biblique, au bout de 2 ans et demi, j'avais passé un concours, un examen, ville de Ploemeur, pour être jardinier de la ville de Ploemeur, c'est-à-dire pour être employé municipal. Donc c'est un poste à vie. Et décembre 79, dernière année au collège, j'ai reçu la lettre avec en tête de Ploemeur. Vous avez été retenu pour... quand est-ce que vous pouvez prendre votre poste? Et il me restait 3 mois de collège public. J'ai été voir le professeur principal, et puis je lui dis, j'ai reçu cette offre d'emploi, j'attends ça depuis 6 ans. Et Dieu m'a promis qu'un jour, je serai employé municipal à Lorient. Mais bon, peu importe, pour moi, Ploemeur, c'était bien aussi. Et puis là, il m'a dit, il y a des bénédictions qui sont des bénédictions de l'ennemi. Du diable, choisi. Le temps de formation se terminait en décembre 79. J'aurais pu partir avec ma bénédiction et puis aller travailler à la ville de Ploemeur, avoir cet emploi que j'attendais depuis des années. Jusque-là, j'avais que des contrats courts et j'alternais petit boulot et puis formation. Et puis, est-ce que je vais vendre ce que Dieu m'a donné pour un poste à la ville de Ploemeur? Finalement, j'ai renoncé, j'ai écrit que j'y allais pas. Dans le mois qui a suivi, on a reçu une parole prophétique d'un frère africain. On avait un frère africain, je crois qu'il faisait 1m50. Il était un peu bossu, mais là, il était extraordinaire, avec une puissance dans la prophétie. Et le Seigneur disait, si vous acceptez de vivre dans la louange tous les jours de votre vie, je vous donnerai ce que votre cœur désire. Et puis là, je me suis dit, mais Seigneur, je veux ce poste que tu m'as promis pour être jardinier à la ville de Lorient. Puis voilà. Fin mars 80, je suis rentré, je rentrais chez moi à Lorient. Dans le train, j'ai lu ma Bible, j'ai reçu... promesse tirée du livre de Job, c'était dans mes lectures courantes. Vraiment une promesse de Dieu extraordinaire. Quand je suis rentré chez moi, 31 mars 1980, une semaine avant était arrivée une lettre de la ville de Lorient, comme quoi j'étais embauché et je pouvais commencer le 21 avril 1980. J'ai travaillé 34 ans à la ville de Lorient. Si Dieu nous promet des choses, il les tiendra. Mais il faut tenir à ce qu'il nous a dit. Dans mon cœur, quand je me suis converti, voilà, j'ai quitté tous ces musiciens, une vie que j'aimais. Ça a été très dur de le quitter. J'ai dit, Seigneur, mais voilà, tu me donnes un nouveau métier, plein de choses nouvelles. Promesse d'une famille, promesse de ceci, de cela, mais Voilà, j'aimerais, pour pouvoir vivre tranquille les services dans l'église, j'aimerais travailler comme jardinier à la ville de Lorient. Des années après cette promesse, ça s'est accompli. Mais à un moment donné, j'ai eu le choix. Il y en avait un autre. L'ennemi, parfois, nous propose des choix, des plates lentilles. Qu'est-ce qu'on veut choisir? Mais si on a reçu des promesses de Dieu qui sont très fortes, gardons-les. Vivons avec les promesses de Dieu qu'on a reçues. Je vais juste finir avec deux textes qui sortent un peu de l'ordinaire. Matthieu au chapitre 11 et le verset 12. Textes qui peuvent parfois nous faire un petit peu peur. Matthieu 11, 12. « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. » C'est-à-dire ceux qui choisissent de répondre à l'appel de Dieu. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, me voici. Va sur la montagne Morija et offre-moi ton fils. Seigneur, me voici. Renonce à telle chose. Seigneur, me voici. Abandonne telle chose. Seigneur, me voici. Je veux te donner telle autre. Seigneur, me voici. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Jacob était avec la violence. Il voulait quelque chose. Et on verra dans sa vie, c'est... continuera l'histoire une fois prochaine. Ça n'a pas été triste. J'aimerais lire encore avec vous dans Hébreux, chapitre 12, les versets 16 à 17, c'est un petit peu l'épilogue de la vie d'Ésaü. Hébreux 12, 16 à 17, 15. « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. De ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble que plusieurs en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü, qui pour un mets, un plat de lentilles, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père a changé de sentiment. » Jacob a piqué la bénédiction du droit d'aînesse à Ésaü. Ésaü est retourné vers son père un jour en disant « Mais c'est moi le premier-né, c'est moi qui ai béni. » Mais entre-temps, Jacob est passé par là. On verra plus tard les circonstances de ça. Tous ces hommes de Dieu ont vécu en même temps des moments extraordinaires et puis en même temps des moments d'épreuve. Mais au moment de l'épreuve, ils ont répondu « Me voici ». Il y a eu un choix. L'Écriture dit parfois se faire violence. On veut prier ensemble. Père Céleste, merci pour d'avoir offert Jésus à la croix. Merci pour ce que toi, tu as dit à Jésus de dire « Me voici ». Seigneur, merci de pouvoir te contempler sur la croix. Merci de ce que toutes les étapes de notre vie sont cachées aussi à cet endroit-là. Tu es le Dieu de la résurrection, le Dieu de la bénédiction. Et c'est toi qui rends la vie et toutes les promesses que tu nous as faites, c'est toi qui donnes la vie. Toutes les promesses que tu nous as faites, aide-nous à être fidèles, à persévérer, à nous attendre à toi. Voilà, je veux te bénir, Seigneur, pour toutes les étapes, toutes les métamorphoses, toutes les transformations, tous les changements que tu fais dans nos vies. Merci pour tous ces noms différents par lesquels on peut te découvrir, et merci pour le nom nouveau que tu prépares aussi pour chacun d'entre nous. Que chacun puisse Voilà, être fidèle, persévérer jusqu'au bout et recevoir ce caillou blanc avec ce nom nouveau. Amen.